Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 28 janvier, 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Il est 7h30, nous sommes ravis de vous accueillir. Voici le journal de Marc Bourreau. Tout au long de la matinée, vous aurez d'extraordinaires surprises. En tout cas, nous l'espérons. Nous avons travaillé pour ça. Didier Raoult sera l'invité politique, si l'on peut dire, donc, de la matinale. Mais voici Marc Bourreau qui entre en piste, frais comme un gardon et sans aucun doute l'épicentre de l'épidémie mondiale à Manaus, au Brésil, qui est une ville extraordinaire au cœur de l'Amazonie, mais qui s'enfonce, Marc, chaque jour, un peu plus, dans une sorte de cauchemar absolu.
Ouais, la capitale de l'État d'Amazonas et ses 2 millions d'habitants transformés en ville martyre, des dizaines de milliers de morts, un variant dévastateur et des cimetières qui débordent. À Manaus, les hôpitaux sont asphyxiés au sens propre comme au figuré. Une grave pénurie d'oxygène empêche d'intuber l'ensemble des malades. Situation apocalyptique, malgré les appels de détresse, Rémi Vallès.
Il parcourt les rues de Manaus nuit et jour, sirène hurlante au volant de son ambulance. Secouriste au SAMU local, Denison Villard se dit anéanti par la situation.
C'est indescriptible. Je viens tout juste de transporter 3 malades à l'hôpital. Pour l'un d'eux, son taux d'oxygène était saturé à 60%. Il va très probablement mourir car il n'y a pas de réserve d'oxygène dans les hôpitaux. C'est catastrophique. Je ne pensais pas qu'on pourrait en arriver là.
D'autant que Manaus espérait se débarrasser du Covid-19 grâce à l'immunité collective. Selon une étude, les trois quarts de ces 2 millions d'habitants présentaient des anticorps après la première vague. Marcus Lacerda, infectiologue à Manaus.
Le problème maintenant, c'est le changement de virus avec ce nouveau variant. Alors l'immunité collective, ce n'est pas une option parce que le virus va changer chaque fois qu'il observe toutes les populations déjà exposées.
Mais plus que les variants, c'est la gestion de la crise par Jair Bolsonaro qui est en cause, selon l'infectiologue.
Il doute encore sur l'efficacité et sur la sécurité de la vaccine. C'est une dispute politique entre le président et le gouverneur de São Paulo qui a produit la plupart des vaccins qu'on utilise aujourd'hui au Brésil. La santé publique a été déplacée des priorités sanitaires.
Avec à la clé des conséquences terribles, depuis début janvier, plus de 3000 personnes sont mortes du Covid à Manaus.
Le reportage de Rémi Vallès, la pandémie qui bat aussi un sombre record, plus de 18 000 décès hier soir sur le globe, c'est la semaine la plus meurtrière depuis un an. La planète qui se barricade aussi un peu plus sous l'effet des variants, mesure radicale, Guillaume, en Slovaquie, test négatif obligatoire pour sortir de chez soi. Aller au travail, chez le médecin, au supermarché, si vous avez entre 15 et 65 ans.
En France, le gouvernement prépare les esprits à un sérieux serrage de vis.
3100 malades en réanimation ce matin. Un mutant britannique qui gagne du terrain, les voyants tournent au rouge et l'exécutif est au pied du mur. Décision attendue ce week-end, lundi au plus tard. Une certitude, le couvre-feu à 18h a fait son temps. Le porte-parole du gouvernement évoquait hier un couvre-feu serré. Quid des écoles? Les commerces vont-ils de nouveau baisser le rideau? Au jeu des pronostics, Martin Blachy et plaide lui pour un retour massif du télétravail, un levier beaucoup trop laissé de côté ces derniers temps, selon l'épidémiologiste.
Il y avait 15% de télétravail. Dans tous les modèles épidémiologiques qu'on a, on a une épidémie qui ne peut pas être totalement sous contrôle. Si on veut vraiment jouer sur ce taux de contamination, il faut qu'il y ait plus de gens qui restent chez eux au lieu d'aller sur le lieu de travail. Et je crois qu'il y a plein de restrictions qu'on va mettre en place si on confine qui vont être inutiles et très douloureuses. Empêcher les gens d'aller à plus d'un kilomètre de chez eux, je pense que ça ne sert à rien. Fermer les petits commerces, on sait qu'il n'y a pas de contamination qui s'y font. Tout ça, ça va être des dégâts collatéraux inutiles, alors qu'il suffirait qu'il y ait un peu plus de gens qui jouent le jeu du télétravail, comme c'est le cas dans plein d'autres pays d'ailleurs.
Martin Blachy avec Rémi Pfister, en tout cas l'exécutif, consulte à tous les étages. Emmanuel Macron reçoit plusieurs scientifiques ce matin. Jean Castex, le Premier ministre, s'entretient jusqu'à demain avec les parlementaires, associations d'élus et partenaires sociaux.
Pendant ce temps, la guerre des piqûres est déclarée entre l'Europe et AstraZeneca.
Ouais, séance d'explication musclée hier soir à Bruxelles. Le laboratoire britannique ne va livrer qu'un quart des doses commandées au premier trimestre. Une douche froide alors que le traitement doit recevoir le feu vert de Bruxelles demain et que les campagnes de vaccination marquent le pas. AstraZeneca, lui, se défend, Céline Cajolis, et avance une baisse de rendement dans son usine en Belgique.
Que l'on fabrique un vaccin ou une voiture, on passe par les mêmes étapes. Du concept car à la voiture produite en série, il faut adapter l'outil de production. En temps normal, on fabrique 100 millions de doses de vaccins par an. Là, le laboratoire en a promis par contrat près de 3 milliards à la fin de l'année. Et pour l'instant, ce chiffre n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est juste le rythme de production. Des des doses vendues à prix coûtant pour garantir un accès large et équitable au vaccin. Et pour dissiper tout malentendu, le patron d'AstraZeneca a déjà eu 3 rendez-vous à Bruxelles pour l'expliquer. Et si les sites britanniques tournent déjà à plein régime, c'est tout simplement parce que la production y a débuté plus tôt. Comme l'Europe a par contrat le droit d'aller contrôler les usines pour comprendre ce qui s'y passe, elle va sans doute le faire. Mais comme me le confiait une source proche du dossier, personne n'a intérêt, ni en termes d'image, ni de crédibilité, à ne pas respecter le contrat signé.
Céline Cajoli, sans faire dans la course au traitement, dernier pointage. Ce matin, Guillaume, coup d'arrêt pour le Remdesivir. Jugé prometteur, l'antiviral n'a pas fait la preuve de son efficacité selon l'essai clinique européen Discovery. Regeneron, en revanche, reste dans la course. Le traitement anti-Covid administré à Donald Trump est bien efficace contre les variants britanniques et sud-africains. C'est ce que confirme la société de biotechnologie américaine.
Et puis ne pensons pas toujours à nous. Il faut absolument trouver une solution pour les jeunes qui n'en peuvent plus. L'exécutif cherche toujours un remède. D'ailleurs, Jean Castex, si ma mémoire est bonne, a téléphoné à un étudiant.
Oui, avec cette question, hein, toujours, comment aider cette génération frappée de plein fouet par la crise économique et sociale? Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, propose...
C'est une sorte de réapparition, lui.
Et oui, il propose, figurez-vous, Guillaume, après, à taux zéro de 10 000 euros pour les 18-25 ans, un capital universel sans condition de ressources pour se lancer dans la vie, 5 millions de bénéficiaires potentiels, une somme remboursable sur 30 ans, uniquement si l'on atteint 1 800 euros brut par mois. Pourquoi pas dit Bercy? Fausse bonne idée, répondent certains experts, Émilie Vallès.
Pour être pertinente, la mesure doit cibler les jeunes issus de familles modestes et surtout, elle doit être fléchée, que cet argent serve à se loger ou à payer des études, analyse Robin Rivaton, économiste et essayiste.
Si elle était universelle, elle ne répondrait pas à son principal objectif, qui est de limiter les inégalités intergénérationnelles, de favoriser l'émancipation, puisqu'elle bénéficierait à tout le monde. Or, aujourd'hui, il y a des jeunes qui vivent relativement mal, moins bien que leurs aînés, et il y a des jeunes qui vivent relativement bien par le jeu de la solidarité familiale et de l'héritage.
Pour Antoine Dulin, président de la commission insertion des jeunes au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, ce prêt peut être un facteur d'émancipation, mais il passe à côté du véritable enjeu du moment, celui de la pauvreté des moins de 25 ans.
En fait, c'est un cadeau empoisonné. On ne répond pas à une logique de pauvreté des jeunes en endettant ou en donnant 10 000 euros aux jeunes. Il faut absolument, avant tout, ouvrir les minima sociaux aux moins de 25 ans en leur garantissant un revenu qui soit du montant du RSA. Dans tous les pays nordiques qui ont mis en place un système de prêt pour des jeunes, c'est bien parce qu'il y a déjà un filet de sécurité avec un revenu minimum à partir de 18 ans.
Et puis, poursuit cet expert, contrairement à ce que dit Stanislas Guérini, 10 000 euros, ce n'est pas suffisant pour changer une vie.
Trop long, parce que... En bref, 9 mineurs interpellés ce matin après le passage à tabac du jeune Yuri. Rappelez-vous, hein, ce jeune de 15 ans passé à tabac à Beaugrenelle, à Paris, il y a 10 jours. La piste d'un affrontement entre bandes rivales est toujours privilégiée.
La suite et la fin de ce journal est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. C'est voici encore Marc Bourg.
Et oui, au bout du suspense, Yannick Bestaven remporte le Vendée Globe.
Bon, j'ai tout regardé.
Ah oui, 80 jours, 13h59 minutes 46 secondes. Le Rochelet a bouclé son tour du monde peu après 4h30 ce matin au Sable d'Olonne. Et d'honneur, corne de brume, feu d'artifice. Et grande émotion, Yannick Bestaven, pour ses premiers pas sur la terre ferme.
Ouais, c'est un bonheur. Je réalise pas encore ce qui se passe. Je suis encore toujours dans ma course. Et, alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant.
Un rêve d'enfant, Yannick Bestaven, troisième skipper, donc par ordre d'apparition après Charlie Dalin et Lewis Burton, mais premier au classement général grâce à une bonification de temps.
Voilà, dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut évidemment appeler les auspices les plus hautes de l'humanité, comme par exemple Dieu. Alors imaginons qu'avec Dimitri et vous, nous nous enfermions dans une chambre avec trois guitares pourries, et que nous ayons comme parole Hare Krishna, Hare Krishna, oh mon Dieu, ça ne donnerait pas grand-chose. Eh bien, vous prenez d'autres personnages, Ringo Starr, Phil Collins, Klaus Voormann, évidemment, George Harrison, Jim Price et un certain nombre d'autres pointures comme Gary Brooker, et ça donne en 1970, tube mondial numéro 1 partout dans le monde, George Harrison, My Sweet Lord. Voilà une chanson magnifique de George Harrison avec des paroles toutes simples, mais des musiciens exceptionnels. Ça date de 1970, ça a été pratiquement numéro un mondial un peu partout, et puis évidemment c'est redevenu numéro un mondial à la mort triste d'Harrison, mais il y a eu un concert extraordinaire qui a été donné au Royal Albert Hall avec tous les musiciens de rock de la planète qui sont venus, donc des années plus tard, chanter sa mémoire. 7h39, il est guitariste lui aussi de temps en temps, Dimitri Pavlenko, mais c'est la version ukrainienne.